Bon réveil, bienvenue sur France Inter, il est 8h21.
France Inter, Éric Delvaux, le 6-9 de l'été.
Bonjour Frédéric Vidal.
Bonjour.
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Conseil des ministres de rentrée, donc ce matin, suivi d'une réunion qui devrait préciser les arbitrages budgétaires de chaque ministère. Avez-vous quelques craintes concernant votre ministère ?
Alors effectivement, les derniers arbitrages sont en cours et on aura l'arbitrage définitif à la fin du mois d'août. Je crois que nous avons fait la démonstration de l'importance que nous accordons à l'éducation, à la formation. Voilà, de ce point de vue-là, je crois que c'est très important de continuer cet effort. Il avait déjà été visible l'an dernier et je pense qu'il sera poursuivi cette année.
Sauf que la croissance étant moindre, pour tenir le budget, il va falloir compresser les enveloppes. Ça peut se traduire aussi par moins de fonctionnaires, des aides au logement en baisse. Ça va impacter votre ministère, ça ?
Alors, l'objectif, vraiment, c'est justement que nous puissions éviter les traditionnels coups de rabot. Tout le monde prend au moins 2% et que nous mettions en avant les priorités du gouvernement et parmi elles, l'éducation.
Alors, le coût de cette rentrée scolaire, elle est en hausse, hein, c'est de plus en plus cher, plus 1,3% cette année, à cause notamment du coût du logement, à cause des transports. C'est le constat du syndicat UNEF qui réclame d'ailleurs une revalorisation des APL de 20% et également une assiette plus grande pour pouvoir bénéficier des bourses. Est-ce qu'au ministère de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, ces questions sont effectivement d'actualité ?
Alors, le coût de la rentrée, c'est un sujet sérieux et ça mérite mieux, je crois, qu'une forme de tract politique. La réalité du coût de la rentrée, c'est qu'avec la suppression de la cotisation de sécurité sociale étudiante, c'est 100 millions d'euros que les étudiants et leurs familles auront de moins à payer à la rentrée 2018. Donc après, je veux bien qu'on fasse tous les calculs d'apothicaire nécessaires pour démontrer que la rentrée coûtera plus cher cette année. La réalité, c'est qu'on a supprimé les 217 euros de cotisation de sécurité sociale étudiante. Et donc, c'est un gain de pouvoir d'achat de 100 millions d'euros pour les étudiants et leurs familles.
C'est-à-dire que vous remettez en cause le constat de l'UNEF qui dit que ce coût augmente de 1,3%.
Écoutez, l'UNEF conteste même le fait qu'il y ait eu 7 millions de dégradations dans les universités. Donc, effectivement, je vous donne les chiffres tels que je les ai.
À ce propos, vous en parlez des dégradations des universités au printemps dernier. Le coût plus cher, non pas 5, mais 7 millions donc de réparations. Qui va payer ?
Alors, je me suis engagée à ce que le ministère accompagne les établissements. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé au printemps est totalement inédit. On n'avait jamais vu personne envahir les universités avec comme seul objectif de casser et de détruire. Et donc, ce n'est pas le travail des universités et leur budget ne doit pas être consacré à ce type de choses. Donc le ministère prendra en charge
les 2 millions supplémentaires et les 7 millions, l'enveloppe globale de 7 millions de réparations. Oui. À quelques jours de la rentrée universitaire sur la plateforme Parcoursup, combien y a-t-il ce matin de candidats toujours sans inscription définitive dans le supérieur ?
Alors il y a ce matin un petit peu moins de 9000 bacheliers et un peu moins de 15000 candidats qui au total sont accompagnés par les commissions de façon à trouver leur place pour la rentrée. Et ils sont un peu plus de 591 000 à savoir où ils seront à la rentrée.
Vous dites, Frédéric Vidal, qu'aucun candidat à l'université ne sera refoulé, sauf que la lenteur du système va contraindre certains étudiants à se rabattre sur d'autres universités que leur premier choix. On ne voit pas très bien quelle est la plus-value finalement de Parcoursup par rapport à l'ancien système APB.
Alors la première plus-value, c'est réellement le choix qui a été donné aux étudiants tout au long du processus justement de choisir l'endroit où ils auraient à étudier l'année prochaine. C'est pour ça que à la fin du mois de juillet, on avait 50 000 jeunes de plus qui s'étaient inscrits au travers de la plateforme que l'année dernière,
inscrits
à la même époque.
Définitivement.
Inscrits, qui avaient accepté la proposition qui leur était faite au travers de la plateforme. Donc, de ce point de vue-là, ça me paraissait important de redonner ce choix aux étudiants, parce que entre quand on a 18-20 ans, c'est très compliqué d'être vraiment sûr de soi. On a besoin de ce temps d'accompagnement, donc ça a été aussi plus d'orientation. Après, si Parcoursup fonctionne plus lentement dans cette dernière phase, c'est justement parce que on accompagne, on aide les jeunes qui restent encore sans affectation à la rentrée. Contrairement à l'an dernier, où le processus s'arrêtait fin juillet, et si vous n'aviez pas d'affectation, eh bien vous étiez laissé seul face à vous-même pour trouver quelque chose malgré tout.
Mais au final, c'est tout de même du stress supplémentaire pour les étudiants qui entament une carrière universitaire. Avec l'ancien système APB, tout était bouclé en une journée. Parcoursup, effectivement, a instauré un mécanisme dans la continuité sur le désistement des candidats potentiels. Pourquoi avoir opté pour cette longue et visiblement trop longue séquence d'inscription ?
Alors, une fois de plus, si on regarde la majorité des bacheliers, ils avaient leur affectation après le baccalauréat. Plus de 95% des bacheliers généraux avaient leur affectation juste après le baccalauréat. Donc l'idée, et ce qu'on a rajouté cette année, c'est l'accompagnement de ceux qui, l'an dernier, s'étaient retrouvés finalement avec une première phase qui se terminait fin juillet. Et puis, dans le flou, et surtout seul, les commissions d'accompagnement, elles ont vraiment pour objectif d'aider le jeune à trouver quelque chose qui va vraiment lui convenir par rapport au projet qu'il a.
Mais parmi ceux qui ont obtenu un oui pour leur affectation, certains préfèrent tout de même attendre une autre affectation dans une autre université. Diriez-vous que c'est eux, que ce sont eux finalement qui bloquent le système ?
Non, je pense que d'abord il ne faut absolument pas culpabiliser les jeunes qui prennent le temps de faire leur choix. Et puis il faut bien comprendre qu'ils ne bloquent rien du tout. Ils ont une place et ils attendent de voir si une autre place se libère
ailleurs. Mais tout le monde attend et au final ça va bouchonner au dernier moment, avant le 5 septembre ?
Honnêtement, avec plus de 591 000 candidats qui savent où ils vont être à la rentrée, et je vous le disais, un peu moins de 9 000 bacheliers dont on s'occupe très activement, je vois les recteurs cet après-midi, on fera le bilan. Mais je n'ai pas d'inquiétude particulière.
Il y a effectivement le mécontentement non seulement des étudiants, mais aussi des directeurs d'université. On va en reparler. Sur cette lenteur, à ceux qui attendent et qui trouvent que le temps est vraiment long avec Parcoursup, vous dites quoi ? Qu'il va falloir s'y faire, ou est-ce que vous envisagez pour l'an prochain quelques ajustements ?
Alors j'ai toujours dit qu'on ferait un bilan du fonctionnement à la fin du mois de septembre, et effectivement c'est ce qu'on fera. J'ai installé un comité scientifique et éthique qui doit justement veiller à ce que Parcoursup, qui n'est jamais qu'un outil, permette la mise en place de la loi orientation et réussite des étudiants, qui a quand même plusieurs objectifs. D'abord mieux orienter, et donc on va aussi mettre en place ce processus d'orientation dès la première à la rentrée prochaine, première et terminale pour les futurs étudiants, plus d'accompagnement à l'entrée à l'université, plus d'accompagnement au moment des choix, et c'est ce qui a déjà été fait. Donc ce bilan complet sera fait. Évidemment, s'il faut ajuster des choses, on les ajustera.
Alors on parle effectivement depuis tout à l'heure du mécontentement des étudiants, mais dans les établissements d'enseignement supérieur également, on regrette de ne pas avoir bouclé les inscriptions avant la pause estivale. Vous leur répondez quoi ce matin aux présidents d'universités qui eux aussi s'impatientent ?
Alors ce que je leur dis, c'est que je comprends tout à fait que ce soit un peu moins confortable de ne pas avoir la liste nominative des étudiants qui vont venir s'inscrire. Mais par contre, étant donné que ce sont eux qui ont fixé les capacités d'accueil, ils savent très bien que ces capacités d'accueil seront remplies à la rentrée. On avait 35 000 jeunes de plus, bacheliers de plus. On a ouvert 30 000 places supplémentaires pour pouvoir les accueillir. Donc,
si on a ouvert des places... C'est même le ministère qui a imposé cette forme de surbooking. J'ai un témoignage de directeur d'IUT qui déplore ce surbooking. Le flou le plus complet, dit-il, par rapport aux autres années. Est-ce qu'on peut envisager, Madame la Ministre, de réintroduire une part de hiérarchisation des vœux, finalement, qui rendrait le système plus fluide ?
Alors, en fait, tout dépend ce que vous recherchez. Si vous voulez absolument caser tous les étudiants, y compris en prenant le risque qu'ils échouent parce qu'ils ne sont pas là où ils souhaitent aller, effectivement, on peut dire que la hiérarchisation fonctionne mieux. Si vous voulez accompagner le choix des étudiants, faire en sorte que ce choix soit mûri et que donc ils aient plus de chances de réussir parce qu'ils sont inscrits dans une filière qui les intéresse, alors il faut accepter que ça prenne un peu plus de temps.
Avant d'aller au standard, ce lourd dossier Parcoursup qui a probablement compliqué votre été, Frédéric Vidal, au moment où on a pensé à de possibles remaniements ministériels cet été, vous êtes-vous senti sur la sellette ?
Non, pas du tout, parce que l'idée c'était vraiment de tenir les engagements qui avaient été pris par le Premier ministre, donc plus d'orientation, plus d'accompagnement. C'est 130 000 parcours personnalisés qui ont été offerts, une réduction du coût de la rentrée de 100 millions d'euros et la suppression du tirage au sort, tous ces objectifs étaient remplis.
Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, vous restez avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Parcoursup évidemment, mais aussi le coût de la rentrée scolaire à la hausse, même si vous n'avez pas le même point de vue que le syndicat UNEF qui fait ce constat. On va évoquer aussi le classement Shanghai. Le standard, c'est au 01 45 24 7000. Il est 8h32.
France Inter, le 6-9 de l'été. Intervenez.
Un premier auditeur, Renaud, vous nous appelez de Bordeaux. Bonjour Renaud.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous m'entendez ?
Très bien.
Oui, bonjour Madame la Ministre. Je suis enseignant-chercheur moi-même, nous sommes donc collègues à l'Université de Bordeaux. Je vous entends depuis tout à l'heure. Alors vous avez déjà partiellement abordé la question que je vais vous poser, mais j'hésite pas à vous la reposer néanmoins parce qu'elle me semble importante. Cette question elle est toute simple. Tous les collègues avec lesquels on discute de Parcoursup, les présidents d'université, et j'ai envie de dire également les concepteurs de l'algorithme Parcoursup, je connais personnellement l'un d'entre eux, disent en privé que cet entêtement à supprimer la hiérarchisation des vœux est très largement responsable du chaos auquel on assiste aujourd'hui. Alors je pèse mes mots en parlant de chaos. Tout à l'heure vous avez utilisé une formule délicieuse en disant que la rentrée allait être un peu moins confortable que les autres années. Non, c'est pas un peu moins confortable, c'est complètement chaotique. Alors ma question elle est très simple, pourquoi vous entêtez-vous à refuser de reconsidérer pour la rentrée prochaine la possibilité de hiérarchiser les vœux ? C'est la condition sine qua non pour que l'algorithme d'affectation fonctionne.
Alors la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal, va vous répondre.
Bonjour monsieur, donc l'important, et je crois que c'est quelque chose qui a été longuement travaillé lors de la phase de concertation l'année dernière, pour nous en tout cas, l'important ce n'est pas d'affecter quoi qu'il arrive des étudiants. Parce que vous êtes enseignant-chercheur, moi aussi, et vous savez comment se passent les rentrées. Vous savez que l'amphi de rentrée est plein, et vous savez que 3 semaines après, l'amphi s'est déjà considérablement vidé.
Un tiers, ou 2 tiers même.
C'est plutôt un tiers quand on arrive au partiel. Donc pourquoi est-ce que les amphis se vident ? Parce que les jeunes avaient des propositions et qu'ils n'avaient qu'un choix, c'était accepter la proposition ou démissionner de la plateforme. Et c'est pas comme ça qu'on intéresse et qu'on motive les jeunes à travailler pour réussir leur année universitaire. Donc oui, j'ai fait des rentrées, j'ai fait beaucoup de rentrées de L1. Je sais à quel point c'est compliqué de faire ces rentrées. Je sais aussi à quel point on attend des étudiants qui finalement ne viennent pas. C'est à peu près 15%. Donc je comprends tout à fait cette difficulté. Je comprends aussi que comme c'est la première fois, il faut qu'on voit comment ça se passe. Et comme je l'ai dit, on fera le bilan à la fin du mois de septembre avec l'ensemble des acteurs et bien sûr les présidents d'université et les enseignants-chercheurs concernés.
01 45 24 7000, le standard de France Inter, avec Dominique qui nous appelle de Haute-Corse. Bonjour Dominique.
Bonjour France Inter, bonjour Madame le Ministre.
Bonjour.
Je voudrais vous poser une question, si vous allez pouvoir trouver des solutions pour solutionner, trouver un équilibre en sorte, mais c'est peut-être du ressort de l'éducation nationale, dans des classes qui sont surchargées et d'autres pas suffisamment, donc s'il faut créer des emplois ou bien supprimer, trouver un équilibre, donc trouver des solutions à cet état de fait.
Bonjour monsieur, donc effectivement, d'abord on travaille très étroitement évidemment avec Jean-Michel Blanquer, hein, puisque l'enseignement supérieur c'est la continuation des prérogatives de l'éducation nationale, et vous avez totalement raison de dire qu'il existe des inégalités territoriales de ce point de vue-là, avec des classes qui sont effectivement surchargées, d'autres dans lesquelles on a moins d'élèves. L'objectif c'est, et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait dès l'année dernière, hein, c'est de faire en sorte que les affectations soient faites aux endroits où on en a besoin. Donc c'est un travail qui est continu, c'est un travail qui est un travail qui se fait aussi dans la dentelle, hein, comme l'affectation dans le supérieur, puisque c'est en fonction de la démographie, en fonction du nombre d'élèves inscrits, que les classes sont pourvues par des enseignants.
Nouvelle question de Marie-Laure qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour.
Bonjour.
J'appelais pour demander si le CROUS pouvait se mettre en accord avec Parcoursup. Je vous donne un cas concret. En fait, ma fille est en liste d'attente sur deux villes. J'ai donc dû réserver deux cités universitaires, c'est-à-dire payer deux cautions. Alors elle est boursière, donc on a fait comme on a pu pour payer ces deux cautions. Et au bout d'un mois, le CROUS ne rembourse plus les cautions. Et elle est toujours sur liste d'attente parce que Parcoursup n'a pas encore donné de réponse. Et du coup, est-il normal que des élèves boursiers soient en difficulté financière à cause de Parcoursup ?
Alors le CROUS, je le précise, hein, c'est le Centre Régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Frédéric Vidal va vous répondre.
Alors effectivement, ça fait partie des sujets que nous allons évoquer à la fin du mois de septembre, voir comment on peut mieux articuler la question du logement avec la question de l'affectation. Nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont obligés de décohabiter ou qui choisissent de décohabiter au moment où ils rentrent dans l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que l'affectation dans les logements des CROUS doit pouvoir être améliorée et se faire beaucoup plus en lien avec la plateforme Parcoursup.
Et je précise que le CROUS, ce n'est pas que Paris, je viens de le dire par erreur. Pour les étudiants qui seront contraints d'aller étudier loin de chez eux dans le système Parcoursup, le gouvernement prévoit maintenant des aides à la mobilité géographique entre 200 et 1000 euros, je crois. Selon quels critères ?
Alors en fait, tous les jeunes qui souhaitent accéder à l'enseignement supérieur doivent, sur la plateforme, demander l'aide de la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Sur cette base-là, ils sont donc pris en charge et on regarde avec eux quelles sont les offres de formation qui peuvent correspondre à leurs souhaits. Il y a 13 500 offres de formation sur la plateforme, c'est énorme, évidemment. Très peu de gens ont regardé les 13 500 formations, mais par contre, les spécialistes de l'orientation, eux, les connaissent. Et donc, ils peuvent proposer des choses qui, parfois, vont être plus éloignées que les vœux initiaux faits par les jeunes.
Plus éloignées géographiquement.
Et dans ce cas-là, on peut les accompagner. Et donc, c'est directement la commission qui propose cet accompagnement financier en fonction de l'éloignement entre 200 et 1000 euros.
Cette aide à la mobilité.
C'est 7 millions d'euros en tout.
Cette aide à la mobilité géographique, est-ce qu'elles vont être, ces aides, cumulables avec les bourses ?
Oui, bien sûr. C'est vraiment des aides spécifiques supplémentaires à hauteur de 7 millions d'euros qui ont été mises en place.
Alors, pas mal de questions ce matin, évidemment, sur ce système Parcoursup paralysé et paralysant. Il a comme conséquence d'aiguiser les appétits des écoles privées qui en profitent pour se présenter à grand renfort de publicité comme une alternative crédible. N'êtes-vous pas en train de favoriser, finalement, un enseignement supérieur à deux vitesses ?
Alors d'abord, je peux difficilement vous laisser dire que c'est un système qui est paralysé quand on a plus de 590 000 jeunes qui ont une affectation et qu'on est en train de s'occuper des quelques milliers qui restent. Ensuite, la deuxième chose, c'est une fois de plus très factuel, c'est qu'on a 50 000 jeunes de plus que l'année dernière qui ont accepté une formation inscrite sur Parcoursup. Donc ça veut dire qu'il y a probablement 50 000 jeunes de moins que l'année dernière qui se sont tournés vers les formations privées.
Aujourd'hui, le poids du privé, ça représente tout de même un peu moins de 20% des effectifs du supérieur. Est-ce que les ambitions macroniennes sont de faire augmenter ce taux, Madame la Ministre ?
Non, je crois que nous avons un système en France qui est équilibré, qui offre le choix entre le public et le privé, qui offre le choix entre des filières courtes et des filières longues, des filières sélectives, des filières non sélectives. C'est un équilibre qui s'est mis en place au fil des années. C'est important de le conserver, je crois.
Quel regard portez-vous sur le classement annuel des universités mondiales, hein, ça s'appelle le classement Shanghai, qui évalue le niveau de recherche des universités et non pas les qualités pédagogiques des universités. Dans la dernière parution, les facultés françaises se maintiennent au-delà du 30e rang mondial. Les 10 premières facultés les plus performantes en termes de recherche, elles sont américaines ou britanniques. Comment regardez-vous ce classement Shanghai?
Alors je regarde comme un classement d'abord parmi d'autres, et puis je pense que ce qui est important, c'est de comprendre les critères qui président à ce classement. Ça a été évoqué tout à l'heure dans la chronique de Géopolitique, hein, c'est un classement qui a été initialement commandé par le gouvernement chinois pour voir comment les universités chinoises progressaient par rapport aux universités anglo-saxonnes.
Vous lui donnez du crédit à ce classement au final ?
C'est important, il faut regarder tous les classements, mais il faut aussi les regarder pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire avec des critères qui favorisent très largement les universités anglo-saxonnes par rapport aux européennes.
Un mot également sur les frais d'inscription en France dans les universités françaises. Elles sont assez faibles, hein, ces inscriptions, financièrement, comparées à
elles ont baissé par rapport à l'an dernier,
pays.
Oui.
Est-ce qu'elles pourront encore rester longtemps aussi faibles ?
Le système tel qu'il a été construit en France, c'est un système solidaire, hein, c'est-à-dire que c'est nos impôts à tous qui paye l'éducation, et c'est ce que l'on observe. C'est un choix qui est globalement assez partagé par l'ensemble des pays européens. Il n'y a que l'Angleterre qui pratiquait des droits d'inscription extrêmement élevés. Donc voilà, c'est un système qui, là encore, pour le moment, a fait ses preuves. Et qui n'est pas interrogé.
Qui n'est pas menacé pour l'instant dans l'immédiat. Une dernière question en quelques secondes, question d'Antoine sur le site de France Inter, à propos de la création de postes en université. Est-ce que c'est envisagé ? Il parle de vrais postes, dit-il, maître de conférence.
350 emplois supplémentaires à la rentrée 2018 ont d'ores et déjà été notifiés et financés aux établissements.
Eh bien, merci Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bon conseil des ministres ce matin, c'est à quelle heure ?
C'est à 10h.
C'est à 10h. Eh bien, merci et bonne journée.
Merci.